Hello, hello, hello. Déjà, on vous souhaite une excellente année 2024. Plein de projets, plein de réussites. Et surtout, la santé, c'est le plus important, le reste suivra. C'est un petit disclaimer pour vous avertir que durant l'épisode, j'ai mon son qui saute un peu. Parce que, en fait, je sais pas, mon réseau a été un peu capricieux. Et du coup, deux, trois fois, mon son saute et du coup, il hache mes phrases. Mais ce n'est pas très gênant, puisque le plus important, c'est qu'on entend hyper bien Max Pereira, mon invité dans cette émission, qui nous dévoile son amour pour le cinéma HK. Et c'est déjà très, très bien. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir. En tout cas, on vous souhaite une excellente écoute. Merci encore pour votre fidélité. Ciao!
Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi.
Quatrième cap. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe.
Bien joué, mais une brique ne rend jamais les coups.
Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans High Kick, dans tes films préf. Alors aujourd'hui, je suis tout seul. Il n'y a pas mon pote Seb qui m'accompagnera tout au long de cet épisode. Mais j'ai un invité. Et oui, et pas n'importe lequel. J'ai un peu le Yumbao du podcast. Hein. On peut le croiser hein, dans l'émission Raging Fire Club, aux côtés de Paul Gossem et de Jonathan Azia. C'est un spécialiste du cinéma hongkongais. Je suis très très content de le recevoir dans cette émission. J'accueille Monsieur Max Pereira. Salut Max, comment vas-tu?
Eh ben écoute, ça va super. Ravi de l'invitation. Merci beaucoup. Et puis, merci à tous les auditeurs de nous écouter. C'est cool. Et puis voilà, je vais essayer d'être concis parce que c'est pas facile ce petit top 3 là. Ça a été très très difficile. Donc je me suis focalisé sur du kung-fu pur, mais j'ai tout un tas de titres effectivement de films de baston à mettre dans la liste. Hein. Donc c'est très très difficile, mais bon, on va essayer.
Ok, bah cool, super. Bah alors, est-ce que tu peux commencer avec ton premier film du coup?
Alors, mon premier film, ça va être un peu spécial celui-là, parce que je vais vous parler en fait du Jeu de la Mort, mais
Ah.
pas celui de 78, pas celui de Robert Close évidemment. Je vais vous parler du Jeu de la Mort original, celui pensé par Bruce Lee. Donc ce film en fait n'existe pas, mais il existe parce qu'en fait il y a le Bruce Lee, avant le tournage d'Opération Dragon et un petit peu avant sa mort, il a réussi à tourner les trois scènes finales, enfin les trois combats finales du film, donc de la fameuse pagode. Et donc on en a des extraits et ça a été remonté sous la forme de trois documentaires, donc Bruce Lee in God, Warrior Journey et récemment Final Game of Death. Donc on peut trouver ces trois courts-métrages, on peut dire, les trois combats finaux montés, remixés, etc. Mais évidemment, pas la version complète, puisque Bruce Lee nous a quittés avant. Donc malheureusement, voilà. Donc je vais vous parler un petit peu de celui-là.
Alors moi j'ai vu ouais, le jeu de la mort, la version originale, je l'ai vu, j'avais été à l'époque, je sais pas, j'avais 12 ans, je crois quand je l'ai vu, j'avais été un peu déçu, parce qu'on m'a vendu le film comme un petit chef-d'œuvre, parce que mon frère l'avait pas vu depuis les années 80-90, donc du coup c'est vrai que quand il l'a revu aussi, ça lui a fait un choc. Pour autant, les 11 dernières minutes, voire Ouais, les dernières scènes sont magnifiques avec le final avec Karim Abou-Jabbar est incroyable. Et j'avais récupéré, alors en pirate, le voyage de Bruce Lee, qui racontait finalement en fait la genèse du projet de Jeu de la Mort et notamment les scènes supplémentaires, donc du coup ces trois combats. Et j'avais été assez impressionné par ce documentaire. En revanche, les deux autres, non, je ne les ai pas du tout vus.
Toi, tu as vu lequel, du coup, tu m'as dit, là?
C'est le voyage du guerrier, c'est ça, ce
John? Ouais, donc c'est Warrior Journée. Donc ça, c'est une version qu'ils ont tournée en cantonais. Je crois que c'est la version qu'ils ont redoublée en cantonais, il me semble. C'est ça, hein, je ne sais pas si tu t'en souviens du doublage. Ouais. Moi, j'avais vu... Le premier que j'avais vu était dans le coffret Metropolitan, tu sais, chez Metropolitan Film Export, chez HK Video. Ouais. C'était Bruce Lee in God. Donc, je crois que c'est un documentaire japonais, mais qu'ils ont redoublé en anglais. Donc, moi, c'est vraiment la première version que j'ai connue quand j'étais gamin, quand j'avais le coffret. Et j'étais subjugué parce que j'étais fasciné par ce film et par cette... En fait, j'étais fasciné par le... Je connaissais le projet initial de Bruce Lee, ce qu'il avait pensé, ce qu'il avait écrit. Je lisais les Karaté Bushido, moi j'étais fan de toute cette littérature-là, Christophe Chanclot, Christophe Gans, tous ces mecs qui ont promu le cinéma d'arts martiaux à travers leurs critiques et à travers leurs livres et tout ça. Donc il parlait beaucoup du scénar, de la petite ébauche de scénar que Bruce Lee avait écrit avant que ce soit récupéré par Robert Close et par la Golden Harvest et tout ça. Donc, pour remettre un peu dans le contexte, parce que là, je suis un peu parti dans tous les sens, mais oui, en fait, là, oui, le film dont tu parlais, et qu'en fait, on a tous kiffé quand on était gamin, parce qu'on attendait ces fameuses 12 minutes à la fin du film, parce que donc, c'est le film de 78 de Robert Close, qui est en fait une réécriture de l'histoire originale, puisqu'en fait, l'histoire originale de Bruce Lee, c'était l'histoire d'un champion d'arts martiaux dont la famille se faisait kidnapper par un malfrat coréen, je crois, et qui devait donc aller sur une île mystérieuse en Corée récupérer un trésor. Et pour récupérer ce trésor, il devait affronter 5 combattants dans 5 étages différents. Donc un peu comme les prémices un peu d'un jeu vidéo, quoi. Il y avait un peu ça aussi qui a été repris. Et malheureusement, il a pu tourner que les 3 combats finale, donc contre Danny Nosanto, contre Karim Abdul-Jabbar et contre le champion coréen dont je ne me souviens plus le nom, je m'en excuse, et qui a été réutilisé dans la version donc, de Robert Close de 78, mais avec une histoire complètement différente, parce que là, ça traite en fait d'un... C'est un peu la vie de Bruce Lee romancée, c'est-à-dire que c'est, un petit peu les derniers instants de la vie de Bruce Lee, qui en fait, donc on retrouve le personnage de Billy Lowe, qui est une espèce de symbole de Bruce Lee, un superstar de Kung Fu à la Bruce Lee, et qui est menacé par les triades, et qui se fait passer pour mort, et qui revient après, et à la fin du film, il réutilise les 3 combats qu'il avait filmés, simplement... en fait, le problème de cette version, c'est qu'on est vraiment subjugué par les 3 combats, par la présence de Bruce Lee simplement, mais en fait, on est frustré en même temps parce qu'il y avait beaucoup plus de minutes. Hein, il avait tourné. Si on monte vraiment tout ce qu'il a pu tourner, en fait, ça dure pratiquement 40 minutes. Et aujourd'hui, avec le nouveau documentaire qui est sorti, je ne sais plus si c'est Eureka ou chez Arrow, je ne me rappelle plus, mais on a le droit à même 50 minutes parce qu'ils ont déterré des nouvelles images, ils ont refait un générique. Incroyable en mode années 70 avec la musique d'époque, ils ont retrouvé la musique qu'il fallait, ils ont retrouvé une toute petite scène au début qui manquait, parce que oui, ça c'est pareil, je l'ai pas dit, mais dans l'histoire originale, Bruce Lee est accompagné de 2 autres combattants, enfin en tout cas dans ces 3 parties là, dans les 3 parties qui restent, et qui est vraiment supprimé dans la version de Robert Close. Il utilise en fait un morceau de cette version dans le film de Robert Close, à un moment donné, quand Karim Abdul-Jabbar, dans l'histoire de la version de Robert Close, met pression à une autre star de Kung Fu, qui se fait, je sais pas si tu te souviens de ce tout petit moment, à un moment donné, il menace un gars, en fait, ils utilisent ce tout petit morceau, et ce tout petit morceau provient du combat qu'ils avaient tourné initialement. Et ils rechangent complètement le script, en fait, ils disent que c'est un mec qui s'est fait menacer par la... En gros, il le prévient d'un truc, il dit, si jamais tu les écoutes pas, ils vont faire comme ce mec-là, et donc ils réutilisent ce petit truc de cette version-là. Je sais pas si c'est très clair pour les auditeurs, mais en tout cas... C'était vraiment le film que devait faire Bruce Lee au départ. C'était vraiment un film sur la philosophie des arts martiaux, sur la méthode de combat du Jeet Kune Do. C'était vraiment un pur film, à la fois voilà, sur les arts martiaux et sur la mystique aussi asiatique. Il y a beaucoup, beaucoup de traces comme ça dans ce qui reste de mystique au niveau de religieux, au niveau de plein de trucs. Ça avait l'air super intéressant et ça aurait vraiment pu être son chef-d'œuvre. En fait, Bruce Lee, ce qui est frustrant, c'est qu'il commençait sa carrière de réalisateur. Il avait notamment fait sa propre boîte de production qui était la Concorde Film. Il a eu le temps de faire La Fureur du Dragon, qui avait cartonné, mais vraiment qui avait explosé. Et bah là, en fait, c'était un film un petit peu de. Enfin, La Fureur du Dragon, il faut vraiment voir que c'était un film d'essai, quoi. C'était juste pour en exercice. Alors, moi, c'est un film que j'aime beaucoup et que j'ai redécouvert avec ma femme récemment, qui est chinoise, et du coup, qui m'a donné une autre lecture du film qui est très intéressante quand tu es, surtout comme elle, une chinoise qui est partie de Chine pour vivre à l'étranger. Donc, le film La Fureur du Dragon traite vraiment de ça, mais c'était vraiment un petit casse-croûte, c'était vraiment un petit prémisse de son chef-d'œuvre qui allait arriver après, qui allait être Le Jeu de la Mort, que malheureusement nous n'avons pas vu et qui aurait peut-être pu bousculer beaucoup de choses dans le cinéma de kung-fu de l'époque, parce que il était vraiment atypique dans sa manière de tourner. Il utilisait par exemple des techniques et des méthodes ramenées des États-Unis. Il utilisait un chef opérateur très connu au Japon, par exemple, dont j'ai oublié le nom. Il y avait vraiment ce côté artistique qu'il voulait mettre à l'intérieur du cinéma de Hong Kong. Il utilisait un combo pour revoir les scènes d'action et pour pouvoir les refaire, ce qui était très inhabituel pour le cinéma de Hong Kong, qui avait plutôt tendance à tourner rapidement, sans son, avec des budgets un peu limités. Lui, il avait vraiment envie. D'ailleurs, quand on retrouve toutes les scènes qu'il a fait pour Le Jeu de la Mort, il répète sans arrêt, jusqu'à atteindre la perfection et jusqu'à même le moment où même le deuxième combat, enfin, dans l'ordre chronologique, c'est le quatrième, mais c'est le deuxième contre le Coréen. Ouais. Apparemment, il était tellement déçu du truc qu'il a même failli, s'il avait été en vie, il aurait peut-être retourné cette scène-là avec un autre acteur. C'est ce que nous dit le documentaire. D'accord. Final Game of Death. Ça dure, c'est un documentaire passionnant, ça dure 3 heures et ça revient sur absolument tout. Alors là, si vous voulez savoir tout sur le film, ce documentaire est parfait parce qu'il vous donne les moindres détails du script, des combats, de comment ça aurait pu être fait. Enfin, moi, ça me fascine complètement. Et voilà quoi.
Alors moi j'aimerais bien savoir une chose parce que j'avais lu un jour un article de Karl Shido qui parlait de Bruce Lee, notamment du Jeu de la Mort, et j'aurais aimé savoir une information que j'ai trouvée nulle part ailleurs, et je me suis toujours demandé si finalement c'était pas une grosse blague ou une information un peu induite en erreur. Dans ce fameux Jeu de la Mort qui était prévu, est-ce que Chuck Norris aurait dû jouer dedans?
Non, en fait, à la base, moi, j'ai entendu l'acteur occidental qui devait jouer dedans, et ça, j'en suis sûr et certain, c'était George Lazenby. George Lazenby, okay. C'était, pour les gens qui connaissent, c'était le James Bond au service secret de Sa Majesté, ouais. Qui est un acteur australien qui a tourné un autre super film de kung-fu que j'aurais pu mettre ce soir, et qui était tourné l'année d'après, qui était donc... L'Homme de Hong Kong avec Jimmy Wong Yu, où là je pense d'ailleurs qu'il a fait L'Homme de Hong Kong parce qu'il n'a pas pu faire Le Jeu de la Mort et qu'après il a fait quelques films à Hong Kong dans des rôles de gentil ou de méchant, puisqu'il a fait un film qui s'appelle Stoner aussi, George Lazenby. Donc il devait faire des trucs à Hong Kong avec Bruce Lee, malheureusement il a fait des trucs avec d'autres acteurs de la Golden Harvest de l'époque. Mais non, c'est sûr que c'était George Lazenby qui devait jouer dedans. Est-ce que positif? Est-ce que c'était un rôle de méchant? Ça on ne sait pas, par contre, on n'a pas plus d'infos dessus. Mais par contre, Chuck Norris. Non, je vois, parce que même dans les parmi les premiers combattants que Bruce Lee aurait dû combattre, en fait, le premier étage avec les, enfin pas le premier étage en fait, le rez-de-chaussée, on va dire, c'était gardé par Bolo Young avec une armée de karatéka autour, un peu à l'Opération Dragon du coup, un peu dans le même.
Cool.
Okay. Je pense qu'il a réintégré des trucs un peu de ce style. Au premier étage, c'était Wong In-sik, donc le champion de taekwondo et de hapkido qu'il affrontait dans La Fureur du Dragon, qui joue aussi, qui combat Jackie Chan, par exemple, que vous allez voir dans La Danse du Lion ou encore dans Dragon Lord, qui est un super combattant coréen de l'époque. Ça, c'était le premier étage. Au deuxième étage, il devait affronter Taki Kimura, Donc, un de ses élèves, parce que Bruce Lee était prof aussi aux États-Unis, il avait été prof d'arts martiaux, et c'était un de ses élèves, c'était Taki Kimura. Donc, il utilisait trois élèves, dans son vie. Donc, Taki Kimura, qui aurait dû faire le style de la montre religieuse. Au premier étage, Wang Yin-sik, c'était le taekwondo, après la montre religieuse, et après, Danino Santo, donc son autre élève pour l'escrima philippin, le champion coréen dont j'ai oublié le nom, qui devait faire donc le Hapkido, et puis après Kareem Abdul-Jabbar, qui devait être en fait le style du non-style, l'inconnu, c'est-à-dire en fait une espèce de... C'était le Terminator un peu avant l'heure, quoi. Ouais. C'était une espèce de forme comme ça, avec des lunettes de soleil, c'est un super personnage qui préfigure un peu le Terminator, une espèce de menace indicible comme ça que Bruce Lee doit affronter.
D'accord, ok. Et donc tu m'as dit qu'il était disponible sur... il est sorti du coup en DVD, disponible chez Arrow ou un autre éditeur, c'est ça ? Le film dont tu nous parles.
Ouais, le final Game of Death, c'est sorti effectivement chez Arrow, je les confonds tout le temps. Mais en tout cas, c'est une boîte de... C'est un coffret qui s'intitule Bruce Lee at Golden Harvest. Donc on retrouve...
Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ok, ouais, je l'ai vu ce coffret. Je crois que Metaluna l'a vendu à un moment donné. Je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu. Il me tentait pas mal, d'accord. Et du coup, il y a ce documentaire-là, en plus, il est vraiment très complet. Bon, je me laisserai peut-être tenter.
Ouais. Franchement, je pense qu'en termes de complétude, je pense que vous pouvez y aller. Alors, c'est pour les gens qui. Enfin, après. Même moi qui suis pas, je parle anglais couramment, mais je suis pas un super spécialiste de l'anglais non plus. Mais vous allez. Alors c'est vrai que ça serait mieux pour le documentaire de l'avoir en. J'aimerais bien qu'en fait il sorte en France, avec Metropolitan ou HK le sorte en France, ressorte le coffret et utilise le documentaire. Ça serait mieux peut-être que vous l'attendiez. Pour les gens qui veulent pas attendre effectivement, qui sont fans d'import et qui veulent acheter des trucs à l'étranger, n'hésitez pas à le commander quoi. Parce qu'en plus vous avez tous les films. Mais vraiment tous les films, ouais. Plus il y a aussi le jeu de la mort 2 dedans.
Ah, oui, d'accord.
Ouais. Donc voilà, Tower of Death, donc le film de 80-81, qui du coup ressemble plus à l'histoire originale, finalement.
Ouais.
Mais voilà, c'est encore un autre délire. Mais voilà, c'est vraiment un super coffret, quoi. Donc, et puis je voulais en parler ce soir parce que j'aurais pu parler d'autres films et tout, mais c'est vraiment un truc qui me fascine parce que quand on est fan de cinéma d'arts martiaux, et je pense que tu me comprends. Moi, je sais pas, il y a une espèce de fascination derrière ce truc qui n'a jamais existé, qu'on ne verra jamais vraiment, sauf si un jour, peut-être, grâce à la technologie, tu vois, ils pourront peut-être tout nous refaire, tu vois, avec les nouveaux moyens. Peut-être c'est possible. Mais moi, je fantasme vraiment ce film. C'est une vraie frustration. Quand tu es fan de cinéma de Hong Kong, de Bruce Lee, de cinéma de Kung Fu, c'est un truc, tu t'es dit, mais pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi il est mort si tôt? Pourquoi? Enfin, c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment
un crève-cœur. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est aussi une fascination de ce film, parce que c'est pour ça que j'avais pris le DVD pirate à l'époque. Hein, je l'avais eu au Gabon, ce DVD, pour en savoir plus, parce que c'est vrai que on a que 12 minutes vraiment spectaculaires, et on se dit, purée, si déjà durant ces 12 minutes on ressent une certaine émotion, s'il avait réussi à terminer ce film là, ça aurait été fou, ça aurait été juste dingue. Et puis en plus on était vraiment à l'explosion de Bruce Lee, parce que Opération Dragon, il est décédé, il a pas connu le succès d'Opération Dragon, mais alors là, Opération Dragon ayant cartonné, le jeu de la mort aurait explosé, et je pense qu'il aurait donné une toute autre dimension au film d'arts martiaux. Et à un moment donné, j'espérais qu'il fasse, alors quand c'était un peu la mode des images des films avec images de synthèse, ils avaient réussi à reproduire en fait un Bruce Lee en images de synthèse qui s'entraînait, et je m'étais dit, peut-être que en fait à un moment donné ils vont nous pondre peut-être un jeu de la mort comme ça. Mais et je me suis toujours en fait, et même je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas eu de remake finalement avec un Donnie Yen par exemple, qui reprendrait finalement l'histoire du jeu de la mort, et on aurait plus ou moins le film qu'on aurait aimé voir, mais avec un autre acteur.
Ouais.
Toujours poser cette question là.
Oui, je comprends ce que tu veux dire. Après, il y a eu des remakes foireux un peu
Ouais.
ou agréables en fonction des points de vue de Bruce Potation avec Bruce Lee, les six épreuves de la mort. Et puis, il y a New Game of Death, je crois, avec Bruce Lee aussi, qui sont des films sympathiques, mais c'est pas là. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Après c'est possible hein, qu'ils le refassent. C'est fort possible, mais vraiment ce qu'aurait été dingue, moi ce qui me j'ai une fascination comme je t'ai dit assez mystique parce que à un moment donné dans le je sais pas si tu te souviens dans le dans le film par exemple Karim Abdul-Jabbar vers la fin il tu sais il a mal aux yeux
Ouais.
parce qu'il est il a des comment expliquer aux gens en fait il ne supporte pas la lumière du jour comme une espèce de voilà de mec qui vit toujours dans l'ombre et tout ça et Bruce Lee arrive à le battre en fait à la fin en perçant les fenêtres de la salle qui donne sur le ciel éclairé et ça renvoie le soleil dans son visage et à un moment donné il y a un passage très très mystique très bizarre dans le c'est-à-dire que les yeux de Karim Abdul-Jabbar deviennent des yeux de reptile. Ils lui ont mis des lentilles avec des yeux de reptile et je sais pas je me suis toujours dit est-ce que à la fin du film, quand il va dans la dernière pièce, tu vois, la pièce qu'on n'a jamais vue, l'ultime pièce avec le trésor, est-ce que ça t'ouvre pas vers une porte? Tu vois, je m'imaginais des trucs. Est-ce que ça t'ouvre
Ah
pas vers
ouais,
une porte,
voilà.
vers un portail, vers un autre monde avec des créatures, des machins? À l'époque, il était aux États-Unis, il était pote avec plein de réals, dont par exemple Polanski, qui était connu pour ses films un peu d'horreur, des machins comme ça. Peut-être
Ouais.
qu'il a eu des idées, des trucs. Il y a plein de trucs assez fascinants, quoi. Il aurait pu ramener un truc que tu n'aurais jamais vu dans le cinéma hongkongais, en tout cas à cette époque-là. À
Ouais,
cette époque-là,
je comprends.
c'était un des. Ça aurait pu être un truc incroyable. Donc il y a plein comme ça de scènes comme ça que j'imagine, le début, la fin, il y a plein de trucs comme ça. Donc c'est une torture parce que tu te dis, mais en fait, tu le verras jamais. Et en même temps,
Ouais, c'est clair.
voilà, c'est très, très, très compliqué. Mais donc voilà, je tenais à en parler par rapport à l'aura qu'il y a derrière. Et puis, franchement, même pour les fans de Bruce Lee, même comme tu as dit, le combat de 12 minutes, déjà, on n'en pouvait plus. Et alors là, les 40, maintenant 50 minutes que vous allez voir, là, c'est un magnifique court métrage. Pour le coup, c'est pas un long métrage, mais c'est un sublime court métrage. Moi, la version que je préfère, c'est la version de Bruce Lee In God, qui a
Ouais.
moins de scènes, qui est pas parfaite et tout, mais je trouve qu'elle est mieux doublée, par exemple, parce que en fait, toutes les trois versions sont pas forcément parfaites. Je trouve qu'il y a toujours un petit défaut, un petit truc. Parce que normalement, il aurait fallu le tourner en mandarin, par exemple, parce qu'à l'époque, les films sortaient en mandarin à Hong Kong. Enfin, en tout cas, les films d'arts martiaux. Et du coup, ça aurait été plus crédible. Mais ils l'ont quand même fait en cantonais, tout ça. Bon, moi, je trouve que voilà, chacun se fera sa version. Ou même si vous voulez vous faire votre version à vous, hein, vous pouvez en mélangeant d'autres trucs. Tout est possible maintenant. Mais moi, j'ai pensé le faire, mais c'était trop compliqué à un moment donné de faire ma version à moi. Mais voilà, en tout cas, voilà, un chef-d'œuvre qui n'existe pas, mais qui existe un peu.
Ouais, totalement. Bon, en tout cas, là, tu commences fort avec un premier film. Je m'y attendais pas. Et là, je me dis qu'on va passer une bonne soirée. Parce que, et du coup, j'ai hâte d'entendre ton second film, du coup.
Alors, eh ben, déjà, ouais, cool. Ben, ouais, c'est vrai qu'on sait pas. Ouais, t'as pas voulu que je te dise la liste avant, donc du coup,
Non,
c'est la
ouais,
surprise pour moi. C'est bien. Non, c'est
j'aime
cool,
bien
c'est cool.
découvrir en direct pour savoir voilà les goûts un peu de l'invité. Et là, franchement, là, tu me régales déjà sur le premier film.
Merci beaucoup. Non, mais ça fait plaisir. Bah, écoute, le deuxième, on va être un peu dans le prolongement, mais en étant
Ouais.
aussi dans la cassure radicale. Parce qu'en fait, on est. Alors, c'est un film de Sammo Hung
Ok.
qui s'appelle Prodigal Son, qui est sorti
Alors.
en 1983.
Come to the opera with me tonight.
Oh, the opera? That sounds boring. I'm not interested.
Ah, Master Chang. Ah, good morning.
Which one's going to be tied?
That's me, boys.
Maybe there are no kung fu experts in Canton.
No point in talking to you.
That's your lucky day. Get him!
Je sais pas si tu vois ce que c'est.
Alors, je connais pas du tout. C'est d'accord. Ça qui est alors, énorme.
Prodigal Son, c'est un film de kung-fu comédie. Alors, la kung-fu comédie, c'est un genre, c'est un dérivé de la... Je remets un peu dans le contexte. Hein, excuse-moi,
ouais, vas-y.
Pour les gens. Mais c'est la kung-fu comédie, c'est en fait un dérivé du kung-fu classique. Donc, l'époque là qu'on parle de Bruce Lee, les années 70, c'était vraiment la marque du kung-fu. Début 70, c'était le kung-fu classique. Et puis, progressivement, en fait, des gens à la fois de l'opéra de Pékin et du monde des arts martiaux se sont emparés du cinéma d'arts martiaux de plus en plus et ont fait leurs propres films. Donc, par exemple, côté opéra de Pékin, on a Jackie Chan, Sammo Hung, Yuen Biao, Yuen Woo-ping, Kor Yuen, voilà. Et puis, du côté des arts martiaux, par exemple, on a des gens qui viennent du monde des arts martiaux, comme Lucia Liang, par exemple, qui vont réaliser, d'ailleurs, Jackie Chan et Lucia Liang, Drunken Master 2,
oui,
ensemble, plus tard. Mais ils viennent de deux courants différents, mais qui ont inventé, en quelque sorte, ce qu'on appelle la kung-fu comédie, qui n'est pas à proprement parler de la comédie systématiquement, mais qui est, en fait... une manière de filmer les arts martiaux beaucoup plus proche de ce que ces gars-là en fait connaissaient au niveau de la et donc ça a complètement transformé le visage la manière de filmer les films de kung-fu en fait ça a transformé le film de kung-fu à Hong Kong complètement ces mecs se sont mis à jouer vraiment dedans. C'est là où Jackie Chan, des mecs comme ça ont pu percer. C'est des mecs qui viennent vraiment de ce monde-là et qu'on parce que en fait dans les années 70, même encore à l'époque de Bruce Lee, c'était pas forcément des pratiquants d'arts martiaux qui étaient en tête en fait des films d'arts martiaux. Ti Lung, Jin Yuang Yu, c'était des gens qui venaient pas du monde des arts martiaux. C'était des sportifs qui avaient été entraînés pour faire des films d'arts martiaux. Mais là, c'est un peu comme si finalement le star system revenait aux mecs qui connaissaient vraiment les arts martiaux ou l'opéra de Pékin. Et donc c'est toute cette vibe de Jackie Chan, voilà. Et donc ça c'est arrivé à la fin des années 70 avec donc Lucia Liang. Lui c'était même en milieu des années 70 que Lucia Liang, c'est lui l'initiateur de la kung-fu comédie. Et après Sammo Hung a vraiment suivi le truc de très près. Et après il y a eu Yuen Woo-ping, Jackie Chan et puis et j'en passe des meilleurs. Il y en a eu plein d'autres. Mais là je parle vraiment des principaux. Et donc Sammo pour le public occidental évidemment c'est le flic de Shanghai. Malheureusement. Parce que du coup, c'est vraiment un des plus grands réalisateurs de films de kung-fu de tous les temps. Hein. C'est vraiment très important de le souligner. C'est d'ailleurs en fait ce petit bonhomme un peu grassouillet qui se bat et dont on l'a un peu vendu comme ça. Et ça a été un peu ce qui lui a fait défaut lui en fait et ce qui a été très intéressant en même temps dans sa carrière, c'est qu'il y a une espèce comme ça de dichotomie entre son physique et son être intérieur. En fait, c'est quelqu'un qui est hyper dur. C'est un dur à cuire. Dans la vie comme dans les films, c'est un traditionnaliste, c'est un mec très 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 dur, hein, très 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 à l'ancienne, mais avec un physique rigolo. Donc du coup, en fait, ça transparaît dans ces films comme quelque chose de très... Alors en fait, voilà, il y a une espèce de contradiction dans ces films qui est très particulière, et ces premiers films de kung-fu, donc de kung-fu comédie, donc qui se situent encore dans un style de film en costume, etc. On passe en fait du rire aux larmes et de la bouffonnerie à la violence absolue, mais absolue. Hein. Ça veut dire qu'il y a des viols, il y a des meurtres, il y a des combats sanglants. Et en même temps, à la minute d'après, il y a une farce complètement détachée du truc, etc. C'est une espèce de c'est un gros bordel dans sa tête. Et donc, il avait fait pardon pour cette longue introduction. Il avait fait donc quelques petits films de kung-fu comédie. Vraiment magnifique qui est sorti chez nous sous HK Vidéo, c'était Le Moine d'Acier, son premier film, et puis Warriors 2. Et Prodigal Son, c'est la quintessence finalement. Il a été fait en 83, à une époque où le film de kung-fu en costume marche plus trop à Hong Kong et où les gens commencent à vouloir des films contemporains, principalement des comédies et des polars, et où ces mecs doivent se réinventer. Donc ils se réinventeront tous, Jackie Chan avec Police Story, Sammo avec les Lucky Stars, etc. Tout le monde essaiera de faire du kung-fu dans un mode contemporain. Mais Prodigal Son a été fait à cette période un petit peu charnière où Sammo nous livre vraiment un peu sa dernière pièce ultime de film de kung-fu. Et dans ce film, il nous dit en fait, les arts martiaux, la vertu martiale, les principes confucéens, toutes ces conneries-là, c'est de la merde. En fait, pour vaincre son adversaire, il faut utiliser tous les moyens possibles et imaginables, et vraiment une vision vraiment désabusée, nihiliste du kung-fu. C'est très particulier, avec deux parties distinctes. En fait, l'histoire originale, c'est toute la moquerie qu'il met, en fait, et toute l'ironie qu'il met dans son film. C'est en fait l'histoire d'un fils à papa qui s'appelle Liang Tsan, et qui en fait gagne tous ses combats, mais parce qu'en fait c'est son père qui sous-doit les combattants pour qu'ils perdent face à son fils. Donc lui, il se croit invincible, il croit que c'est le dieu de Foshan, c'est censé se passer à Foshan, qui est un peu le cœur des arts martiaux du sud en Chine. Et du coup, il tombe un jour sur un vrai gars qui décide de ne pas se faire soudoyer. Et là, il se rend compte que c'est une daube et qu'il est pas si bon que ça. Et il va complètement suivre ce maître qui lui a mis la pâtée. Et moi, je ne vous raconte pas tout le film, mais le film va vriller dans une espèce de désillusion, une quête de vengeance. Enfin, voilà, c'est vraiment le film un des films les plus nihilistes que Sammo ait fait, et vraiment sur cette désillusion de la vertu martiale. J'avais parlé tout à l'heure de Lucia Liang, qui lui vraiment était un être aussi comme Sammo, très à l'ancienne, très traditionnel et tout, mais lui croyait vraiment aux vertus des arts martiaux et tout ça. Sammo, il nous avoue qu'il y croit, mais que en certaines circonstances, ça marche pas à tous les coups. C'est quelque chose. Il est très, et ça vient vraiment de son physique, de son être, cette personne qui était à la fois le grand frère de l'opéra de Pékin, le grand frère de Jackie Chan et tout, mais qui avait un physique bizarre et un peu rigolo. Et du coup, il était un petit peu torturé. Voilà, c'est un peu des films de torturer, les films de Sammo. Voilà, c'est. Je sais pas si tu l'as. Ouais, tu l'as pas vu, tu m'as dit, du coup.
Du tout, ouais, non. Alors, Sammo Hung, en fait, j'ai pas mal de lacunes, là, grâce au podcast. C'est vrai qu'avec Seb, on revoit pas mal de HK. C'est compliqué de trouver. on va pas se mentir. Mais quand on arrive à en choper un, on est très content. Sammo Hung, moi, je connais plus la période. Shanghai Express. La période quand, en fait, fin 80, ouais, enfin milieu, ouais, 80, fin 80, 80, quand il commence vraiment, ouais, à exploser, et même finalement en France, on commence un peu dans les vidéoclubs à découvrir ces films-là, en même temps que les films de Jackie Chan. Mais c'est vrai qu'après toute cette période où les films de Kung Fu, mais en costume, et début 80, c'est vrai que là, j'ai pas mal de lacunes.
Mais c'est cool. En plus, là, les films que tu as cités, c'est des chefs-d'œuvre. Hein. Shanghai Express, c'est un chef-d'œuvre. Il a fait Eastern Condor, il a fait plein de films avec Jackie Chan aussi. Peut-être que tu as dû voir. Voilà, les Lucky Star, les First Mission, ça, c'est des tueries, hein, ces films. C'est incroyable. Là, c'était la période, effectivement, film plutôt contemporain, où Shanghai Express, c'était même un blockbuster, même. C'était un énorme blockbuster là-bas, à Hong Kong. C'est un truc extraordinaire. Mais. Voilà, mais je pourrais parler de ça aussi, mais là, ces films-là, les kung-fu comédies, alors c'est pas forcément le film le plus accessible, le deuxième. Là, le premier et le troisième vont être plus accessibles que celui-là. Là, celui-là, c'est vraiment le plus inaccessible pour les gens qui découvrent, parce que c'est vraiment de la kung-fu comédie, mais qui en même temps est mélangé à du kung-fu classique, qui se confronte. En fait, c'est parce que c'est vraiment il synthétise et il dialectise, en fait, la période Bruce Lee classique et puis la période kung-fu comédie et dans un seul film. Donc c'est parfois ça se rencontre, ça se percute, ça se contredit, c'est très particulier. Donc c'est pas forcément le plus accessible. Par contre, si vous aimez les bastons incroyables, parce que je l'ai pas dit, mais c'est le cœur des arts martiaux qui est pratiqué dans celui-là, c'est le Wing Chun. Et là, c'est les plus beaux. Enfin, je crois qu'il a été même cité par Donnie Yen comme étant le film de Wing Chun ultime. Avec Warriors 2 de Sammo, je crois que ces deux films, il est cité comme les meilleurs films de Wing Chun de tous les temps. Ces deux films de Sammo. Et d'ailleurs, Prodigal Son, ça c'est vraiment pour les gens qui connaissent cette période, mais Prodigal Son, c'est une sorte de préquel de Warriors 2, dans le sens où c'est en fait dans Warriors 2, on retrouve le même personnage donc de Liang Tsan, qui est là interprété par Yuen Biao dans Prodigal Son. Il est interprété par un acteur plus vieux dans Warriors 2, parce que c'est censé être une préquelle. Enfin, c'est censé être le même personnage, en tout cas. Et voilà, Yuen Biao, formidable. Hein, c'est un des plus beaux rôles de Yuen Biao. Moi, genre, voilà, on n'en parle pas assez. Jackie Chan, Sammo Hung et Yuen Biao, hein, c'est très très important de, ouais, d'en parler. C'est un, parce que nous, on le voit comme le comparse et tout, mais c'est vraiment une star en Asie, particulièrement au Japon, mais même à Hong Kong. Enfin, c'est un dieu vivant. Hein, c'est quelqu'un qui a fait des films en tant que premier rôle et tout. C'est, donc là, il est incroyable. Dans le rôle de son maître, on retrouve Lam Chi Ying, qui était le Mister Vampire, hein, des films de Ghost Kung Fu, ouais, Comedy pour les connaisseurs. C'était un des grands potes de Sammo qui jouait dans tous ses films et tout, donc il est extraordinaire. Il y a Sammo lui-même qui joue un rôle aussi dans le film, qui joue le rôle d'un vieux maître un peu pourri, un peu pervers. Parce que Sammo, en fait, à cette époque-là, il avait un peu le cul entre deux chaises, il savait pas s'il devait jouer des héros, des vieux maîtres, des sidekicks un peu rigolos, il a un peu tout tourné à cette époque-là. Et il a vite compris qu'en fait c'était plus, parce qu'il n'a pas vraiment cartonné Sammo en fait en tant qu'acteur à Hong Kong. En fait, c'est plutôt en tant que réalisateur et en tant que chorégraphe qu'il est respecté. Mais en tant qu'acteur, en fait, les gens le, il n'a jamais vraiment su comment se situer trop. Il a fait un peu de tout. Il a fait des trucs sérieux, pas sérieux. Il s'est un peu cherché. Des fois, il faisait des seconds rôles complets, y compris dans ses propres films. Enfin, il se focalisait pas forcément toujours sur le même rôle, le même type de rôle. Mais voilà, c'est très intéressant. Prodigal Son, c'est sorti en France, chez nous, chez Metropolitan aussi, chez HK Vidéo, dans le coffret. C'était les arts martiaux au cinéma, je me rappelle plus. C'était un coffret spécial, comme ça, avec un diptyque dans le coffret.
Ah oui.
Et il y avait Miracle Fighter dedans.
Ah, c'était pas les coffrets et les films de Kung Fu,
ouais, qui étaient en deux parties. C'est ça. Et donc c'était le volume 3, je crois que c'était le volume 3 ou 2, je sais plus. Mais enfin bref, en tout cas, il est trouvable en DVD ou alors en import, encore une fois, nos amis anglais, américains et extra-européens ou européens le sortent dans des très bonnes qualités là. Donc, c'est parfaitement trouvable. Donc voilà, c'est très intéressant. Et il y a aussi un parti pris visuel aussi au niveau du film, c'est que le film se déroule en deux actes bien distincts, comparé aux fameux trois actes qu'il y a toujours dans les films. Là, c'est vraiment deux parties bien distinctes. La première partie, qui est vraiment de la kung-fu comédie, où on se marre et tout, et où le combat final de cet acte est tourné dans un opéra. Donc c'est vraiment le côté spectacle, c'est très symbolique, il y a beaucoup de symbolique, hein, de symbolisme et tout, c'est très très beau, hein. Les films de Sammo, il y a toujours de la réflexion et tout, c'est très très bien, très très bien foutu. C'est parfois des trucs un peu où il fourre un peu n'importe quoi, mais en même temps des fois par miracle, il y a une espèce de truc comme ça qui ressort, et là ça en fait partie. Et dans la deuxième partie, le combat final se termine dans une espèce d'arène antique un peu. Donc là, la deuxième partie est beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus nihiliste, beaucoup plus noir et beaucoup plus désabusé en fait, parce qu'en fait à la fin on a une espèce de sensation un peu amère. On dit ouais, il a battu son adversaire, mais est-ce qu'il le méritait vraiment, est-ce que c'était vraiment lui le plus fort? Et en fait la fin est un peu amère, elle te dit ouais, finalement c'est pas un truc de valeureux guerrier chinois, là on n'est pas du tout là-dedans, là on est dans un truc un peu avec une amertume, un espèce de manque de respect, il y a un truc un peu comme ça, un peu bizarre. Mais je pense que ça vient vraiment de la vie propre de Sammo, qui a eu une vie particulière, et qui a eu un parcours compliqué, et qui est un être un peu torturé. Et du coup, mais c'est une filmographie super intéressante, et c'est pour moi, il est considéré comme le chef-d'œuvre de Sammo, hein, de toute sa filmo, donc moi je voulais quand même. Et c'est le plus grand film de Kung Fu des années 80, je baisse mes mots.
Ok, bah écoute, je prends note, et là tu m'as donné envie de le voir. C'est vrai que le film de Sammo Hung que j'ai vu, il était jeune, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est un film de John Woo dans lequel Jackie Chan joue un petit rôle et Sammo Hung joue un méchant, il me semble.
Ouais, en fait c'est Hand of Death de Sammo. Ouais,
ouais, c'est ça, ouais, tout à fait, ouais.
Et qui est un super film, ouais, que j'adore, qui se situe justement entre cette période kung-fu classique. C'est encore du kung-fu classique, mais tu vois, ça commence à être ces mecs, parce que c'est Sammo à la chorégraphie et Jackie Chan aux cascades, qui s'occupe de toutes les cascades. Et Jackie Chan a même un second rôle même dedans. Il a un rôle important dans Death Death. Et c'est le moment où ces mecs-là, qui viennent des arts martiaux, commencent à s'emparer progressivement, tu vois, du star system, quoi. Il commence à arriver, et Jackie Chan va arriver un peu après, parce que lui, il va avoir un parcours un peu hors d'ancy, et il va exploser littéralement dans les années 80, mais dès les années 70, voilà, Sammo et tout ça, ils commencent à insuffler de leur savoir-faire dans le kung-fu classique. Donc c'est important que tu l'aies cité celui-là en DevDev carrément, parce que c'est un film charnière un peu en fait.
Ouais, et puis même il est je trouve que même visuellement, enfin HK Video avait fait un super travail dessus. Donc visuellement en fait il est vraiment vraiment bien. Les chorégraphies sont vraiment vraiment belles et vraiment bien cadrées. Et non, j'avais beaucoup beaucoup aimé ce film. Et en plus il était violent. Et ça, ouais. J'étais pas forcément prêt à voir ça au départ. Je m'attendais à un film, tu vois, avec les combattants qui volent et autres. Et en fait, quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit « Waouh !» Ok. En plus, c'est John Woo. Je me suis dit « Bon, bah d'accord. Déjà, il a posé les bases, mais en plus, il y a un casting derrière qui est assez impressionnant et chorégraphie aussi. » Et bon, franchement, c'est un film à voir déjà pour le réalisateur, mais aussi pour les acteurs, quoi.
Carrément, carrément. Et puis John Woo était un immense réal, même à l'époque où il n'avait pas encore réalisé ses chefs-d'œuvre, même ses petits films de kung-fu, on avait déjà la marque d'un grand réalisateur, quoi.
Mmh. Ah, je suis bien d'accord. Écoute, la second film, ok, bah je prends note, vraiment cool. Et alors, le troisième film.
Alors le troisième film, je vais revenir un peu à la du mainstream. Là, je vais pas être très original parce que, en fait, je me suis dit, est-ce que je parle de mon deuxième préféré ou de mon premier préféré ? Et je vais parler de celui que je préfère parce que même si je voulais mettre le deuxième en avant, qui est quand même un film très important des années 90. En fait, j'ai voulu vraiment faire le par décennie parce que pour moi, les années 70, 80, 90, c'est les 30 glorieuses du cinéma d'arts martiaux.
Je suis d'accord.
Même dans le cinéma américain ou occidental, vous pouvez trouver des trucs chouettes dans cette période aussi. Mais je trouve qu'après, à partir des années 2000, il y a encore Donnie Yen, il y a encore Wu Jing, il y a plein de trucs super. Hein, moi, je renie pas. Mais c'est vrai que c'est des films que je revois un petit peu moins. Tu vois, c'est pas ma période forcément la Golden Age, comme on dit, c'est pas l'âge d'or. C'est pas l'âge d'or du cinéma de Hong Kong après 2000. Ça, vraiment 70, 80, 90, vous allez trouver un nombre incalculable de chefs-d'œuvre dans tout un tas de domaines. Mais là, principalement dans le domaine des arts martiaux, c'est clair et net. Mais pour moi, voilà, celui qui symbolise le chef-d'œuvre ultime, parce que j'étais obligé d'en parler, et vous en avez déjà parlé dans votre émission. J'étais très heureux de ça. Et donc, c'est Drunken Master 2.
Ah, trop cool.
Voilà, je suis pas très original sur ce coup-là. Mon top 3 des années 90, c'est Drunken Master 2, Opération Scorpio et Fist of Legend. Opération Scorpio de Lucia Liang, enfin voilà, et Fist of Legend de Yuen Woo-ping, Gordon Chan et Jet Li. Mais je pouvais pas ne pas mettre Drunken Master 2 dans mon top 3, c'était impossible. Enfin, il y a beaucoup de trucs à dire qui sont super cool. Je sais que tu le connais bien, t'en as parlé le fois et tout, donc c'est cool aussi. Faut pas perdre les gens avec eux, parce que si je leur avais parlé d'Opération Scorpio, je les aurais perdus. Mais Opération Scorpio, peut-être j'aurai l'occasion d'en parler un jour sur une autre émission, mais en tout cas chef-d'œuvre absolu. Mais là, dans Drunken Master 2, donc il y a un rapport avec Opération Scorpio puisque c'est réalisé à la fois par c'est officiellement réalisé par Lucia Liang. Je vous ai parlé un petit peu après, qui a carrément inventé la kung-fu comédie et Jackie Chan. Et au départ, c'était vraiment un film officiellement réalisé par Lucia Liang. Hein. Ce n'est qu'en fait, au fur et à mesure du tournage, que Jackie Chan, comme à son habitude, puisqu'il était surpuissant, c'est emparé en fait du processus du tournage en fait. Mais comme il faisait en fait à chaque fois. Et il avait du mal. En fait, les années 90 pour Jackie Chan, c'est un peu particulier parce qu'il n'avait plus le droit de réaliser. En fait, on lui avait interdit de réaliser parce que il dépassait systématiquement les budgets. Opération Condor. Après Opération Condor, en fait, ils lui ont dit. Il y a eu Big Brother, il y a eu Opération Condor. Ils ont dit après Opération Condor, c'est fini. Là, tu dépenses beaucoup trop d'argent. C'est-à-dire, tu es beaucoup trop grand pour Hong Kong. Là, c'est trop. Là, en fait, tu passes trop de temps à tourner, tu mets trop d'argent dans tes trucs. Je sais pas si t'as vu Opération Condor, mais je pense que tu l'as vu. Mais
oui, pour moi, c'est même s'il y a il y a d'autres films qui suivent derrière, mais Mr. Dimit et Opération Condor, ça reste des. Même si je suis un peu moins fan d'Opération Condor,
ouais, moi aussi,
pour plusieurs raisons. Mais Mr. Dynamite reste énorme. Et en le moins d'un doute, Big Brother avait été un échec aussi à Hong Kong.
Non, ça n'avait pas été un échec, mais ça avait été des films qui n'avaient en fait, qui avait coûté trop cher par rapport à ce qu'ils ont. Après, oui, ça a pas été. Je crois que ça a pas été effectivement des cartons atomiques. Je crois. Je crois que ça a bien marché dans mon souvenir, mais surtout, ils dépensaient trop d'argent et. Ouais. Et même si je crois qu'Opération Condor a dû mieux marcher, mais alors après, alors moi les box-office, ça date un peu, donc faut que je me remette, je rebuche dessus. Mais oui, effectivement, en tout cas, c'était trop de dépenses pour le cinéma de Hong Kong. C'était clair net. Donc à partir des années 90, en fait, ils lui ont dit tu vas toujours être le mec qui va être le maître à bord, mais on va te mettre un réalisateur. Et on va te mettre un mec qui va quand même. Alors c'est très intéressant les années 90, début 90 de Jackie Chan, parce qu'il va finalement travailler avec plein de gens différents. Il va quand même faire un polar avec Kirk Kong, ouais. Une comédie poète-poète avec Wong Jing, un super film, un classique du film de Kung Fu avec Lucia Liang. Donc, et à chaque fois, il va quand même s'emparer des tournages systématiquement pour le Crime Story. Donc le film de Kirk Kong, il va virer Kirk Kong, il va tourner une scène de combat à la fin, parce que le film n'était pas assez léger. Le film était trop noir, en fait.
C'est fou parce que on en parlera de Crime Story parce que pour moi ça c'est un de mes films préférés ouais. Même si je suis quand même assez déçu de voir que il met quand même un peu de comédie et que tu sens que à un moment donné Kirk Kong n'est plus aux manettes et c'est Jackie Chan, là tu le vois parce que c'est la coupe de cheveux qui change, donc tu vois qu'il y a du re-shootage derrière, mais je trouve dommage parce que Jackie Chan il sait très bien où il va, il a quand même signé à une catégorie 3, il sait très bien que c'est un crime story, c'est Kirk Wong, on est sur un gros polar. Et je comprends pas le fait d'arriver, de dire bah non, j'ai envie de mettre un peu de légèreté. J'ai vraiment trouvé ça dommage.
Bah, moi, ça se comprend, hein. C'est vraiment c'est sa personnalité qui gagne par-dessus tout, c'est impossible de le. Et en fait, il a fait déjà beaucoup de compromis, Jackie Chan l'a vite fait sur Crime Story, c'est-à-dire que même au niveau de son jeu d'acteur, Kirk Wong lui disait tu surjoues trop là. Et donc il lui disait joue moins, baisse en intensité. Et au bout d'un moment, Jackie Chan lui dit oui, mais là je suis monolithique, je fais rien. Il dit oui, mais c'est ça en fait. Je veux que ça passe par ton regard, par ton. Je veux que tu fasses un minimum de trucs. Quand, malgré tout. Crime Story, ça reste quand même un film de Kirk Wong, je trouve. Et Jackie Chan l'a pas trop bousillé. Il a effectivement fait cette scène à la fin, mais en fait, je trouve que ça parasite pas trop le truc. Mais le film devait être beaucoup plus violent, en fait. Là où tu as raison, par contre, c'est vrai que ça devait être un catégorie 3, effectivement, je crois, ouais, ou en tout cas un catégorie 2B ou quelque chose comme ça. Il y a toute la fin qui est hachée. Il y a plein de scènes qui manquent, il y a plein de scènes, Kirk Kong a mis plein de scènes de Hulk, et Jackie Chan a tout coupé, mais un peu comme ce qu'il avait fait avec le The Protector, là, le retour du chinois de James Ligon, un peu ça, mais là, ça c'était plutôt bienvenu. Mais oui, c'est vrai que Crime Story, c'est un peu dommage, mais ça reste quand même un film de Kirk Kong. Et puis pareil pour Nicky Larson de Wong Jing, Wong Jing a pratiquement pas mis les pieds sur le tournage, et malgré tout, ça reste quand même un film de Wong Jing, mais parce que Wong Jing, il a ses acteurs, il a ses décors, il a son montage, il a son cut, il a ses musiques, il a tout, et donc du coup c'est lui qui a le cut final. Mais c'est vrai que la mise en scène, c'est Jackie Chan qui l'a fait de Nicky Larson, alors que ça c'est plus un Wong Jing qu'un Jackie Chan finalement. Donc c'est quand même une période intéressante où ça donne quand même des films intéressants, mais effectivement c'est la confrontation entre deux grosses personnalités. Il a fait aussi un film avec Tsui Hark, par exemple.
Oui.
Twin Dragons.
Ouais, exact.
Qui a l'air de s'être plutôt bien passé, puisqu'il n'y a pas l'air d'avoir eu de friction sur celui-là. Alors, ça a l'air d'être. C'était un film du Nouvel An chinois qu'ils avaient fait bénévolement pour la guilde des réalisateurs à Hong Kong. C'était un film qu'ils avaient tourné gratuitement pour ça. Et du coup, c'était un esprit un peu bon enfant, donc peut-être qu'ils ne mettaient pas beaucoup d'ambition dans le truc et que ça s'est bien passé. C'est un film un peu choral, Twin Dragon, mais c'est un super film. C'est un super film.
Exact.
C'est génial. Et pareil, Drunken Master 2, il l'avait fait sans trop de pression non plus, pour revenir à, sur Drunken Master 2. Mais en fait, celui-là, ils l'ont tourné pour la Stuntman, la Hong Kong Stuntman Association, pour leur renflouer les caisses de l'association des cascadeurs de Hong Kong, en fait. Donc, pareil, je crois que ça a été tourné aussi, soit bénévolement, soit ils ont baissé les cachets à fond pour tourner ça ensemble. Donc c'était pareil, un film un peu du Nouvel An pour la bonne cause, quoi, pour le cinéma. Ouais. Donc ça partait un peu comme ça. Et donc ça a été tourné en Chine, dans le sud de la Chine, je crois, enfin une partie. Donc truc un peu ambitieux. On sent quand même sur le tournage, en voyant le making-of, que Jackie Chan est aussi... et autant le réalisateur que Liu Xiaolong, mais ça c'est pas étonnant, enfin, il donne quand même vraiment les directives et tout, mais on retrouve quand même pareil, quand on connaît Liu Xiaolong et qu'on est fan de Liu Xiaolong, on retrouve beaucoup de Liu Xiaolong dans le film, parce qu'en fait, ce film en fait, c'est un film de spectaculaire, c'est un film de kung-fu qui reprend les grandes figures, et il y a le film de Tsui Hark qui était passé par là, donc il était une fois en Chine,
ouais,
qui avait un peu changé la donne, qui avait relancé la mode du film de kung-fu, du coup, parce que ça marchait plus, comme on l'a dit, dans les années 80. Et là, ça avait relancé la mode, et donc on retrouve des espèces de trames scénaristiques, cette espèce de... Voilà, tout le truc un peu anticolonialiste, avec les Chinois qui doivent récupérer leurs trésors nationaux. Y a plein de... Le fond du film est très... empreint de, voilà, du respect de la culture chinoise et tout ça. Donc là, je pense que les deux... Liu Xiaolong et Jackie Chan se sont mis d'accord et je pense qu'ils allaient dans la même direction au niveau de ce que le film raconte dans le fond. Je pense que là-dessus, c'était des mecs un peu traditionnalistes et tout, qui voulaient mettre ça en avant, c'est pas une histoire incroyable, ça, on l'a vu mille fois et tout. Là où ils se sont disputés, c'est sur l'aspect, en fait c'est le cœur du film, c'est le filmage des combats, en fait. Ouais, la manière de filmer les combats. Et moi, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris un peu à droite à gauche, c'est qu'en fait, déjà, on constate que Liu Xiaolong, c'est quelqu'un qui filme radicalement différent de Jackie Chan au niveau des combats. Et pour Liu Xiaolong, le combat, la manière de filmer les arts martiaux, ça doit être très respectueux. Ça ne doit pas utiliser beaucoup d'artifices de cinéma. En tout cas, le moins possible. Les inserts... Les trucs typiques du cinéma de Hong Kong, hein, le fait de dynamiser telle ou telle scène, etc. Lui, il voulait vraiment filmer la pureté des arts martiaux au cinéma en laissant tourner le plus longtemps possible et en laissant les échanges les plus longs possibles. D'ailleurs, au début de Drunken Master 2, je sais pas, tu te souviens de le combat qu'ils ont tous les deux sous le train, là.
Lui, yeah, avec exact, ouais, ouais, tout à fait, ouais.
C'est un miracle, cette scène, parce que c'est à la fois, je retrouve du Liu Xiaolong, au niveau de la manière de laisser en fait les arts martiaux respirer à l'intérieur des plans, et en même temps la virtuosité, parce que en fait ce que fait Jackie Chan, c'est là où c'est un génie, en fait c'est la rythmique. Liu Xiaolong, c'est vraiment le fait de laisser respirer, et Jackie Chan, c'est la rythmique. Et dans cette scène là mais tu te dis, et en plus c'est les deux qui combattent, quoi, ils représentent ces deux courants et ils combattent tous les deux, donc c'est assez incroyable de les voir devant la caméra et en même temps derrière. C'est un bijou, ce film, parce que en fait ça synthétise leurs deux styles et ça l'harmonise complètement. C'est-à-dire qu'en fait tu te dis pas c'est l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps qui font une espèce de joute comme ça. Ils s'affrontent à la fois dans leur mise en scène, dans leur chorégraphie, et en même temps c'est super organique, c'est génial, quoi. Et du coup tu retrouves, voilà, ça laisse respirer le fight, et en même temps t'as la rythmique incroyable, les bruitages, les machins de Jackie typique et tout. Donc ça fait et c'est pour ça que c'est un chef-d'œuvre, en fait, parce que ça réunit deux des plus grands chorégraphes du cinéma d'arts martiaux de tous les temps, mais ça aurait pu très bien ne pas marcher là, parce que vu les caractères des deux et la manière dont ils voyaient les choses, et d'ailleurs ça s'est gâté au fur et à mesure du tournage, parce qu'en fait Jackie Chan a de plus en plus pris le pas sur le truc, et Liu Xiaolong, qui était un mec un peu à l'ancienne, un peu rancunier et tout, il commençait à se venger à l'intérieur de la... Il se disait, je vais faire l'inverse de ce que Jackie Chan me dit de faire. Et lui, il voulait tirer le film de l'autre côté. Puis au bout d'un moment, Jackie Chan, qui était le patron, a dit, vous savez quoi, avec tout le respect qu'on doit pour Liu Xiaolong, moi, on le vire. On laisse son nom à l'affiche, parce que c'est l'ancien, on respecte les maîtres, hein, c'est chinois, tout ça. Tu sais, mais en même temps, je crois qu'il a tourné tout le combat de la fin. Je crois que le combat de la fin, c'est vraiment... C'est vraiment du... Ouais, c'est ça. Alors, c'est du Jackie pur jus. Là, on est vraiment dans du Jackie pur jus, mais c'est extraordinaire. Le combat de fin, il est mortel. Mais c'est vrai que le... En fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, ils étaient en parfaite harmonie. Au fur et à mesure, en fait, Jackie Chan, je crois, a repris les commandes de la Real et l'a remis simplement à Liu Xiaolong en tant que chorégraphe. Et jusqu'à cette magnifique scène là de l'assaut du restaurant là, par le gang des
H. Magnifique. Qui
est une maestria de mise en scène et là qui est vraiment pareil, qui est propre à leurs deux styles. On retrouve vraiment du Liu Xiaolong et notamment ce qu'il avait fait avec le boxeur de Frank Chantung, là, le juicier de Shanghai à la fin et tout ça. Enfin, il y a des trucs comme ça qu'on retrouve de Lucha Liang. Et en même temps, je trouve qu'on retrouve aussi une rythmique et tout le travail de cascade de Jackie Chan, de ses cascadeurs et tout, qui est incroyable. Et puis à la fin, eh ben, Jackie Chan reprend vraiment les rênes. Et là, c'est un pur film de Jackie Chan. Mais encore une fois, voilà, ça reste. Il y a un truc organique qui se passe qui est un miracle. Ce film est un miracle. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, hein, mais moi je pense.
Comme je l'avais dit, hein, pour moi c'est un des premiers Jackie Chan que j'ai découvert. C'est peut-être le Jackie Chan qui est, comment dire, pour commencer en tout cas. C'est une bonne introduction parce qu'il y a tout. Il y a à la fois du drame, hein, ce dont on parlait, hein, c'est-à-dire qu'à la fois on peut avoir de la comédie, de la grosse comédie, puis d'un seul coup en fait on a eu du drame du moment où il va commencer à boire et va se faire laminer par les ennemis. C'est là qu'on voit la faiblesse du héros aussi, et que finalement en fait il n'est pas forcément le héros à ses faiblesses. Après, c'est vrai que c'est un film, de par sa musique, de par ses combats, le combat final, il dure 10 minutes. Enfin, c'est même un peu plus, je crois, mais c'est complètement fou. Il va se battre contre des artistes martiaux, mais juste magnifiques. C'est au millimètre près. D'ailleurs, le bêtisier final, c'est le making-of, où il montre vraiment les cascades et autres, les trois quarts du making of se déroulent vraiment sur sur ce combat là sur cette scène finale. Je trouve ça vraiment vraiment cool. Ça reste un Jackie Chan de haute qualité. Moi, je sais que à chaque fois que je croise quelqu'un, on parle de Jackie Chan, bien sûr je lui conseille Combat de Maître, parce que pour moi c'est un super film, c'est un super Jackie Chan, même s'il n'est pas parfait, parce qu'il y a aussi des petites... Moi, c'est vrai que j'ai jamais eu de chance, j'ai jamais vu en version originale, j'ai toujours vu en VF, donc déjà la VF, en fait, elle coûte pas mal.
Elle est horrible, la VF.
Elle est horrible. Mais bon, voilà, il y a Anita Mui qui est pour moi... c'est le syndicat du crime 3, quoi. Enfin, voilà, c'est une super actrice. Et puis aussi, alors j'oublie son nom, mais l'acteur qui joue dans syndicat du crime 1 et 2.
Oui, c'est T-Lung.
Voilà, T-Lung, voilà.
Ouais, qui est une légende du cinéma d'arts martiaux des années 70. Ouais.
Tout à fait. Et ça reste un très bon Jackie Chan. Et moi, j'aurais une question à te poser. Parce qu'on en avait rapidement parlé, tu m'avais envoyé en DM. On en a parlé dans notre émission. Il y a un Drunken Master 3. Et j'étais persuadé qu'en fait, ça n'avait strictement rien à voir avec finalement Drunken Master 2 ou même Drunken Master 1. Et tu m'avais dit qu'il y avait quand même un lien entre Drunken Master 3 et les autres films.
Drunken Master 2. En fait, c'est pas vraiment une suite de Drunken Master 1, déjà. Ouais. Dans le sens, En fait, tu reprends le même personnage du Wong Fei-Yung. Parce que pareil, on n'a pas parlé, c'est Wong Fei-Yung, c'est un des grands héros légendaires du folklore chinois, qui a apparemment existé. Et donc, il y a eu pêle-mêle de films dans les années 50, interprétés par Quan Ta King et tout ça. Enfin, bref, ça c'est encore autre chose, mais c'est vraiment une figure emblématique. Et là, Jackie Chan l'interprétait jeune, dans Drunken Master 1, et d'ailleurs ça ne sera pas le premier à le faire. Le Jackie Chan et Yuen Woo-ping ne seront pas les premiers à le faire. En fait, le premier à le faire, à introduire Wong Fei-Yung John, ça sera Liu Xia-Liang dans un film qui s'appellera Le Combat des Maîtres. C'est un autre, mais c'est un film des années fin 70 avec Gordon Liu, le frère de Liu Xia-Liang, qui joue dans la 36e chambre de Shaolin et tout ça. Et donc, c'est vraiment Liu Xia-Liang qui a intégré le personnage de Wong Fei-Yung jeune, qui l'a rajeuni, en fait. Et donc, dans Drunken Master 2, d'ailleurs, c'est un petit peu ridicule parce que Jackie Chan est à 40 piges et il joue vraiment un ado de 16, 17 ans. Donc, c'était vraiment la limite où il pouvait le faire. Hein. Il pouvait ne le faire que parce qu'à 40 ans, il était encore bien, bien, bien frais. D'ailleurs, dans le film, vous verrez, il est très frais. Et donc, dans le 3, en fait, on retrouve le personnage de Wong Fei-yung et de son père, qui sont interprétés par d'autres acteurs. En fait, le rôle du père, il est repris par Adam Chung, je crois, qui jouait dans Zhu, qui était le héros de Zhu, enfin, un des héros avec Yuen Biao, tout ça. Et Wong Fei-yung est interprété par Willy Chi. Alors, Willy Chi, c'est un acteur qui jouait dans Le Temple du Lotus Rouge de Ringo Lam, qui est sorti chez nous aussi, où là, il interprétait du coup Fong Sai-hook, qui est une autre légende Shaolin du folklore chinois, et qui est toujours. Fong Sai-hook et Wong Fei-yung, c'est les deux héros les plus emblématiques. Et donc, Willy Chi, il a fait à la fois Fong Sai-hook, où là, ça a été un super film, par contre, Le Temple du Lotus Rouge, c'est mortel, et il a fait malheureusement Wong Fei-yung dans Dragon Master 3. Qui n'est pas terrible, qui a plein de défauts, qui est un film de toute façon, qui a été fait pour des mauvaises raisons, puisque c'était une espèce de revanche que voulait prendre Liu Xiaoliang en disant « Non, mais de toute façon, Drunken Master, Wong Fei-yung, c'est mes films à moi au départ, donc c'était à moi de faire le truc, etc. » Et je peux comprendre l'énervement, mais le problème, c'est que le film est bien boiteux, et il y a des super trucs, hein, parce que Liu Xiaoliang, même s'il y a ça reste un réalisateur, c'est un des plus grands. Hein. S'il y a un réalisateur de films d'arts martiaux, là j'ai cité Samu, on a parlé de plein de gens, Liu Xiaoliang, c'est vraiment, objectivement, et moi pourtant c'est pas ce que je préfère le plus, c'est pas mon style de prédilection, c'est plutôt Samu, peut-être que je dirais, peut-être maintenant avec le recul, même si je suis complètement fasciné par Jackie Chan et c'est mon idole, mais Liu Xiaoliang, objectivement, c'est le plus intéressant de tous, parce que il a inventé un truc, une manière de filmer et un respect des arts martiaux qui est inégalable, et malheureusement, il va pas passer le cap des années 80, où il faut inclure les arts martiaux dans un truc beaucoup plus contemporain, en faisant des comédies ou des trucs un peu populaires. Il va pas prendre ce virage. Et dans Drunken Master 2, ça sera vraiment son ultime chef-d'œuvre. Et il y est pour beaucoup. Il y est vraiment pour beaucoup. Mais dans Drunken Master 3, effectivement, film intéressant pour les complétistes, les collectionneurs et les gens qui veulent un peu explorer l'univers, mais très, très, très bancal. Alors, il y a des acteurs mythiques dedans. C'est Andy Lau qui a le premier rôle.
Ouais.
Qui reprend pas d'ailleurs son rôle on le voit dans le deuxième. Il a fait une petite apparition dans le deuxième qui est assez cool. Je pensais qu'il reprenait son rôle, mais en fait, pas du tout. C'est un autre rôle, mais c'est souvent le cas à Hong Kong. En fait, c'est des fausses suites souvent qu'ils font. Et il y a Simon Yam aussi qui fait une espèce de combattant homosexuel complètement chelou avec une canne à un moment, mais une scène what the fuck complète. Tu te dis, mais c'est
Simon Yam en même temps.
Ouais, Simon Yam, acteur caméléon, acteur formidable. Mais là, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Ah bah oui, chef-d'œuvre absolu, à foutre contact, là tu me fais plaisir, moi c'est un de mes films préférés. Non mais voilà, c'est Simon Yam, mais voilà, il est là-dedans, alors pareil, qu'est-ce qu'il fout là-dedans, tu sais pas, il y a une scène, je te dis, où il fait une espèce de combattant homosexuel avec une canne, complètement ridicule, enfin c'est n'importe quoi, t'as Gordon Liu qui fait un méchant complètement caricatural aussi, mais ça c'était un peu le classique à l'époque, il faisait beaucoup de rôles de méchant, Gordon Liu après, dans sa carrière. Après, il y a des super moments, à un moment donné, Liu Xiaoliang revient dans le film d'ailleurs, c'est le vrai maître en fait de la boxe de l'homme ivre, quoi. Il revient, il réinvestit son rôle, mais en jouant pas le même rôle que dans le deuxième, etc. C'est un maître qu'enseigne la boxe ivre, pas à Wong Fei-yung du coup, mais au personnage d'Andy Lau, je crois. Parce qu'en fait, c'est pareil, c'est Andy Lau qui a le premier rôle et c'est pas le personnage de Wong Fei-yung qui a le premier. Enfin, c'est un peu compliqué. Et à un moment donné, il apprend les arts martiaux. En fait, il lui fait apprendre les arts martiaux sur un toit en pente, quoi. Et donc, il lui apprend à se battre sur un toit, mais tu vois, voilà, je peux pas le faire parce qu'on est en audio, mais comme un dahu, quoi, tu vois, en mode.
D'accord, ok, ouais, je comprends. Ouais.
Ça, c'est un truc que tu verras pas dans d'autres films, que tu te dis, mais il y a que pour faire des trucs pareils. Et ça, c'est assez original, moi, ça m'avait marqué cet entraînement-là. Il y a la fameuse scène d'entraînement, le héros qui apprend une nouvelle technique. C'est un petit classique, hein, c'est l'histoire est classique et tout. Mais bon, malheureusement, ouais, c'est pas. Mais c'est un truc officiel, hein, qui fait partie de la saga, apparemment, c'est Zhu Quan 3. En titre chinois, c'est pareil, je crois que c'est la même chose, hein, donc voilà, c'est un truc officiel, quoi.
D'accord, ok, bah écoute, alors je sais pas, il me semble pas qu'il soit sorti en France,
je crois qu'il est... Non, sûr que non, en France, non, c'est jamais sorti.
Donc, bon, peut-être un jour, hein, avec... Je vois que Spectrum sort pas mal de petites pépites, je crois qu'il y a aussi HK qui recommence un peu certains Blu-ray, notamment Iron Monkeys.
Ouais, et puis Zhu bientôt.
Là. Oui, ah, cool. Ouais. Zhu, ouais. Je me suis noté celui-là. Je ne veux pas me louper. Donc j'espère que voilà, petit à petit, ils vont ressortir des films. On a un rapidement avec, avec un autre invité, Creepers, de VHS et Canapé. Et c'est vrai qu'on parlait que bah, on aurait bien aimé que bah, des films comme Full Contact, des films comme même de la catégorie 3, on a eu Ebola Syndrome qui est sorti à un moment donné chez Spectrum. On aimerait bien que certains catégories 3 sortent aussi en Blu-ray. Bah, soit sur, chez HK ou sur après Spectrum train parce que ça serait bah, ça serait bien de redécouvrir de découvrir et puis même de redécouvrir certaines œuvres donc parce que c'est vrai que le cinéma HK il y a eu cette vague dans les années 2000 avec la sortie des DVD bah, notamment The Killer, Le Syndicat du Crime, À toute épreuve puis d'autres films hein, Full Contact et autres. Et puis il y a une j'ai l'impression que en France il y a une baisse parce que à un moment donné bah on a c'est devenu un peu inaccessible et ça revient petit à petit maintenant mais
ouais, ouais le cinéma de Hong Kong est un peu maudit parce que il y a un... en fait il est arrivé à l'époque dans la vague du tu sais des années 2000 enfin il y a eu plusieurs vagues en fait il y a eu la vague Bruce Lee après il y avait la vague Jackie Chan John Woo dans les années 80 que moi j'ai pas connu hein. Moi j'ai connu la vague début 2000 HK vidéo l'arrivée du cinéma asiatique du cinéma coréen thaïlandais le renouveau du cinéma japonais le film d'animation le cinéma chinois parce qu'en fait en fait quand le cinéma de Hong Kong est arrivé chez nous on le présentait comme un cinéma chinois ce qu'il est hein. Mais c'est un type, c'est un truc un peu différent parce que ça a été quand même une colonie. Enfin, c'est un truc un peu, ça a une particularité un peu différente du cinéma du continent. Il y a plusieurs cinémas chinois. Il y a le cinéma de Chine continentale, de Hong Kong, de Taïwan et même de Singapour. Et tout ça, c'est considéré comme du cinéma chinois. Et pourtant, c'est pas tout à fait dans les mêmes styles et tout. Mais à l'époque, c'était vendu comme du cinéma chinois. Il y avait Tigre et Dragon, il y avait tout ça. Donc ça, en fait, les gens ont reçu ça comme du cinéma chinois. Donc, c'est difficile d'expliquer que c'est du cinéma typiquement hongkongais, que c'est Jackie Chan, que c'est Bruce Lee, et remettre un peu tout ça en perspective. C'est ce que j'essaie de faire à travers ma chaîne et tout. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est un cinéma un peu maudit. Et puis, la Corée a pris le dessus aussi, artistiquement, sur le cinéma chinois en règle générale. Le Japon marche toujours au niveau des films d'animation. Même l'Inde en ce moment est en train d'arriver. Il y a des films indiens qui sont super intéressants, qui sortent beaucoup alors sur Paris et tout, mais il y a une petite hype aussi autour du cinéma indien. Mais c'est vrai que le cinéma de Hong Kong et le cinéma chinois s'est toujours retrouvé un petit peu maudit par rapport à ça, parce que c'est pas le truc le plus accessible en fait du monde. Donc c'est aussi pour ça que tous les films ne sortent pas.
Ouais,
et c'est aussi pour ça que il y a peu de gens qui en parlent. Et d'ailleurs, je te remercie d'en parler sur ce que vous faites sur votre podcast. Et je remercie toujours les gens qui en parlent parce que c'est tellement rare. Et même de m'inviter ou d'inviter des gens comme moi qui en parlent et tout, qui parlent pratiquement que de ça, c'est super parce que moi, je comprends aussi pourquoi les gens n'en parlent pas trop non plus. Enfin, parce que ça fait pas beaucoup de vues. Alors moi, je m'en fous parce que je fais ça pour le plaisir. Je fais ça pour passer le temps. Mais je veux dire, les gens qui veulent, voilà. Après, c'est bien. J'incite quand même les gens un peu à en parler de temps en temps parce que même si tu fais du cinéma occidental à 90%, tu peux glisser une petite, ce que vous faites hein, d'ailleurs, hein. J'ai vu un podcast, vous avez parlé de Undefeatable de
Godfrey.
Moi j'ai jamais vu personne en parler sur quelconque, mais moi j'en parle pas, enfin tu vois il y a des trucs, enfin c'est cool quoi, et ça met plein de trucs en perspective, ça ouvre à plein de trucs, c'est sympa. Donc c'est pareil, c'est aussi pour dire que ça aussi c'est du cinéma de Hong Kong, c'est il y a plein de courants dans le cinéma de Hong Kong, c'est très riche, et donc c'est voilà, c'est aussi pour ça que c'est difficile mais il y a plein de films qui sortent quand même quoi, il y a quand même plein de films qui sortent. On a droit à, effectivement comme tu l'as dit, on n'a pas encore la ressortie des Full Contact et tous ces chefs-d'œuvre-là, mais ça va venir au fur et à mesure. Et puis, quand tu les. C'est vrai qu'en 4K, Blu-ray et tout, c'est une vraie redécouverte, quoi. Il y a des trucs que je redécouvre vraiment, même des trucs pas terribles que je voyais à l'époque, et je les vois en 4K, et je me dis, mais en fait, c'était pas si mal, quoi. C'était pas si mal que ça. Moi, c'est une petite aparté, mais je me suis maté la bande-annonce, enfin, un extrait remasterisé en 4K de Black Ninja. Qui ressort là chez les, je crois que les avec Cameroun.
Deux éditions, tout à fait.
Et c'était, et en fait, je connais bien les films de Godfrey Ho, les trucs, j'en ai bouffé, hein, mais c'était des qualités irregardables, quoi. C'était des trucs, tu dois savoir, enfin, c'est des trucs, c'était des VHS rip, des trucs immondes. Et là, en fait, je vois le truc. Ouais, et puis tu sais, tu recadrais, tu voyais même pas le film, en fait, et tout. Et là, en fait, je revois le truc, je suis, mais en fait, bon, c'est pas ouf, mais je me dis, putain, mais en fait, ça, c'est pas mal, hein. Franchement, ouais. Pour les. C'est bien, c'est... Après, il y a un vrai savoir-faire effectivement à Hong Kong à l'époque de la façon de faire un combat. Donc même dans le truc le plus nanardesque, en fait, tu vas trouver des combats qui sont plutôt bien ficelés à chaque fois, parce que c'est vraiment ce qui fait leur cinéma à 90% du temps. C'est vraiment la manière de filmer les scènes d'action, c'est juste incroyable. Donc voilà, des fois c'est des vraies redécouvertes, il y a des trucs comme ça que je redécouvre, et après en même temps, bon, ça fait aussi ressortir la 4K, ça fait ressortir tous les défauts aussi, parce que ce cinéma a de nombreux défauts aussi, et malheureusement c'est à double tranchant, ça fait ressortir les trucs les plus sublimes, et puis ça fait ressortir les défauts, c'est un peu le problème aussi.
Puis la 4K, je sais que après c'est en import, mais ça nous a permis d'avoir enfin Polystory 3 en Blu-ray, en Blu-ray 4K, et là aussi alors je l'ai pas acheté, j'ai pas acheté le film, mais j'ai vu en fait à quoi il ressemblait, et c'est vrai que ça donne une autre dimension, quoi. Et tu te dis c'est quand même c'est vraiment vraiment très bien, la remasterisation est vraiment cool,
complètement, ça fait très 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 plaisir.
Eh bien, écoute, merci beaucoup. Là, franchement, tu m'as bluffé sur les trois choix. J'ai pris des notes. Je vais aller à la conquête de ces films, tout au moins les deux premiers, en tout cas. Ça me donne vraiment envie. Merci beaucoup d'avoir parlé du cinéma HK. C'est vrai qu'avec Seb, on aime beaucoup le cinéma HK. Moi, j'étais un peu bercé quand j'étais gamin, parce que j'avais des frères qui étaient fans de Christophe Gans déjà, et de John Woo. Bon, du coup, The Killer, à toute épreuve, j'en ai bouffé. et puis bon, tout ce qui aussi est Jackie Chan, Sammo Hung, comme je te disais, hein, les fins 80, début 90, c'est pour moi, ce cinéma HK est vraiment, vraiment extraordinaire. Et c'est vrai, j'ai bien aimé le parallèle que tu as fait même avec les films occidentaux, où c'est pareil, hein, fin 80, enfin même les années 80 et les années 90 ont été importants aussi dans les arts martiaux pour les films occidentaux.
Carrément.
C'est d'ailleurs là où on a vu le plus de sous-vendames qui sont arrivés, puisque bon, les boîtes de production, voyant que Van Damme avait cartonné avec ses films, du coup, tu voyais que chaque boîte de production avait son propre poulain et essayait de se faire du pognon sur lui. Et je trouvais que voilà, à partir des années 2000, ça devient un peu plus compliqué. On n'est plus sur du film d'action, peut-être intellectuel, et ça revient un peu maintenant avec des films d'arts martiaux, notamment John Wick, hein, où le scénario est certes basique, mais par contre les scènes de combat sont vraiment hyper bien chorégraphiées, et ça fait plaisir à voir. Où est-ce qu'on peut te trouver dans tes actualités?
Alors, je voulais te remercier déjà de m'avoir invité. Vous faites un super taf, et vous déterrez aussi des petits trésors des années 90 et de films d'arts martiaux et tout ça. Donc, je me régale, c'est vraiment pas mal. Je vais écouter plus d'émissions. Donc, merci encore pour l'invitation. C'était très cool.
T'en prie.
Et puis, moi, on peut me trouver, sur ma chaîne YouTube, c'est Max Pereira. J'ai une petite chaîne YouTube, voilà, mais avec pas beaucoup de d'abonnés, mais beaucoup de vidéos par contre. Donc allez-y, hein, si vous voulez découvrir le cinéma de Hong Kong, c'est là que ça se passe. Et je co-anime un podcast avec mes amis Paul Gossem et Jonathan Asia, que j'embrasse, qui sont des vrais connaisseurs et des vrais passionnés aussi, et qui s'appelle le Raging Fire Club, en hommage à Raging Fire, le dernier film de Donnie Yen. Du film posthume de Benny Chan. On traite de cinéma de Hong Kong principalement, de cinéma asiatique de manière plus large, et puis peut-être un jour de cinéma un peu dans ce que peut-être un peu dans le même vibe que ce que vous faites, du cinéma d'action héroïque, un peu badass, un peu à l'ancienne, quoi. Ouais. On aime bien ce type de truc, mais on va parler un petit peu de tout ça dans les prochains numéros. Donc en gros, vous pouvez me trouver, et puis sur la chaîne des copains, à droite, à gauche, je fais un peu des apparitions un peu partout.
Ok, de toute façon, on mettra les liens dans le podcast. Donc les gens pourront cliquer et du coup découvrir à la fois ta chaîne YouTube mais aussi le podcast. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette émission, c'était vraiment cool. Chers auditeurs, on se retrouve très bientôt avec Seb qui me rejoindra pour une prochaine émission. N'oubliez pas, mettez 5 étoiles sur les plateformes de podcast pour qu'on soit référencé et on se dit à la prochaine dans Hacking dans ton podcast. Salut.